Ah, la terre qui est féminin et exploité par les mecs. Non, non, c'est bien. Si on prend pas, il y aura de plus en plus de femmes. On aurait trop écrit une belle histoire là-dessus.
Mon ami.
Mais bien sûr.
Enregistré.
Bonjour à tous, vous entendez bien ? Oui ? Bon, bienvenue à cette conférence « Imaginons une ferme urbaine idéale au service des maraîchers et de l'environnement ». Donc, je m'appelle Sarah et je suis cofondatrice de l'association La Glutamine qui a organisé cette conférence et que vous pouvez retrouver sur les quais devant la maison éco-citoyenne jusqu'au 3 novembre. On expose nos modules de maraîchage urbain. Donc, nous vous invitons à venir nous voir pour nous poser toutes vos questions et visiter cette ferme de demain. À mes côtés aujourd'hui, des amis et partenaires du projet qu'on est très contents d'accueillir. Tout d'abord, juste à côté de moi, Guillaume Tartare. Tu es agriculteur et paysagiste et tu as eu un rôle clé dans la création de cette association puisque tu as inspiré le projet de coworking agricole dont on parlera tout à l'heure. Donc bienvenue, Guillaume. À côté de toi, Nicolas. Toi aussi, tu as un rôle clé parce que tu as conçu la Tiny House qu'on peut voir sur les quais devant la maison éco-citoyenne. C'est une très belle maison qui a beaucoup de succès, donc tu nous en parleras tout à l'heure. À côté de toi, Michel Ardouin, tu es architecte chez A6A, un cabinet, et tu conçois des micro-architectures, donc on en parlera tout à l'heure. Il nous manque Jean-Louis Chomel qui est en route, qui pensait qu'on était à la maison éco-citoyenne, donc il sera là dans quelques minutes. Il est gérant du bureau d'études TechBat Ingénierie, donc on parlera d'énergie dans le bâtiment. Et enfin, Charles Oxenhendler, le cofondateur à mes côtés de la Glutamine, qui sera là pour parler plus amplement du projet. Bienvenue à tous les trois. Alors, tous les quatre, bientôt cinq. Je suis un peu la seule fille, hein. On m'a fait souvent la remarque. J'espère que sur les prochaines conférences qu'on organisera, il y aura plus d'hommes côté ferme et bâtiment. Ça tend à évoluer. Donc, avant de commencer les échanges de femmes, j'ai dit ferme. Des hommes, des hommes, oh là là. C'est ma première conférence en tant qu'animatrice, donc soyez indulgents. Avant de commencer, je vais vous faire une petite introduction sur l'état des fermes aujourd'hui en France. Il faut savoir qu'il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine en France. En 20 ans, on est passé de 2 millions d'exploitations à 500 000. Et ce chiffre tend encore à se réduire dans les prochaines années puisque beaucoup d'agriculteurs partent à la retraite. Donc il y a une vraie problématique du côté des maraîchers. On entend encore ? Ouais. Chaque jour, deux paysans se suicident. C'est très très triste. Le marché il est dérégulé suite à la Deuxième Guerre mondiale. Les paysans doivent produire plus. Donc ça veut dire plus d'engrais, plus de pesticides, plus de machines, plus de graines. La production moyenne d'un maraîcher a doublé. Mais son salaire a été divisé par deux. Donc il y a vraiment plein de choses à revoir sur le modèle. Et donc à la Glutamine, il nous semble urgent de soutenir ceux qui nous nourrissent, puisque manger, c'est quand même la principale chose qui nous permet d'être ici. Et donc dans cette quête d'une autre culture, la première question qui se pose, c'est l'accès au foncier, Michel. En préparant cette conférence, on se disait que voilà, c'était le premier frein à l'installation d'un maraîcher. Quel est le contexte aujourd'hui du foncier pour les maraîchers ?
On m'entend ? Oui. Donc non, juste pour resituer la chose, on n'est pas, je veux dire, moi, on est architecte, il y a mon associé qui est là dans la salle. Je suis pas un spécialiste d'une ferme urbaine, mais peut-être voilà un architecte qui travaille sur la ville, sur la micro-architecture, sur la plus grande architecture aussi. Et donc pour parler du contexte, ce qui est celui de, en tout cas à Bordeaux ou dans des villes moyennes, puisque là on parle d'agriculture urbaine, quoi, de ferme urbaine. C'est toujours un peu compliqué puisque l'urbain est de nature aussi plus artificiel. C'est une invention de l'homme. Comment on vient gérer et contrôler aussi de l'espace vert, de l'agriculture et ramener, finalement, c'est ça aussi, c'est ramener la nature dans la ville. Donc une vraie question. Je pense que cette présentation, on va la faire comme une discussion. Il n'y a pas de vérité générale, mais plus des questions ouvertes à tous. Nous, ce qu'on voit en tant qu'architecte, c'est forcément une grande pression foncière puisque Bordeaux et les villes ont tendance à accueillir de plus en plus d'habitants et les terrains aujourd'hui sont directement pris par en grande partie des promoteurs ou de la construction de, voilà, qui est plus à une échelle un peu plus grande et qui ne permet pas à, des maraîchers ou des agriculteurs de pouvoir accéder au foncier. Donc ça, c'est un fait. Comment on arrive après à se dire finalement qu'est-ce qui ferait qu'on ait plus de terrain qui soit disponible, qui soit bon, puisque on ne va pas dire que tout terrain est forcément propice à faire de l'agriculture. Aujourd'hui, dans Bordeaux, il reste encore des espaces verts. Il y en a en première couronne un certain nombre, mais ces espaces verts, il faut savoir que certains sont inondables, certains sont pollués, certains sont déjà occupés, et d'autres qui sont plus dans un secteur diffus. On pensait notamment, voilà, en discutant de la conférence, comme tout ce qui est le domaine universitaire de Bordeaux. Aujourd'hui, on est sur des étendues très larges, qui sont pour la plupart peu utilisées, et ce serait quelque chose qui, de l'ordre du ludique et de la présentation, peut être intéressant, puisque c'est présent. On sait très bien que ça ne va pas être urbanisé plus que ça. Pourquoi on ne pourrait pas le transformer et le faire revenir, finalement, pour quelque chose de plus grand?
Alors, justement, donc effectivement, tu dis qu'il y a encore des terrains, mais de quelle surface a besoin d'un maraîcher pour pouvoir se lancer?
Alors là, je laisse la main à Guillaume qui va répondre plus là-dessus.
Bonjour. Alors, sur la question, on va dire qu'un maraîcher peut cultiver sur 1 500 m² de culture essentiellement, ce qui peut donner à peu près 40 paniers pour des familles, ce qui nourrit à peu près 160 personnes. Donc après, moi, en tant que maraîcher, je cherche à avoir plus. Pour moi, la taille idéale en tant que maraîcher, c'est 6 hectares, sachant que j'en ai quasiment la moitié qui reste en biodiversité pour vraiment trouver un équilibre entre la production et la biodiversité des cultures.
Et tant qu'on est sur les chiffres, de quel espace aurions-nous besoin pour nourrir Bordeaux? On s'était posé cette question en préparant. Est-ce que vous avez une réponse à nous apporter là-dessus?
Je crois que si je ne me trompe pas, j'ai calculé 700 hectares. Il nous faudrait pour arriver à nourrir la population bordelaise de 700 000 personnes. Donc, il faut préserver des terres, et des terres justement non polluées, justement, être sûr de pouvoir cultiver correctement dans les années à venir et pouvoir nourrir la population.
Et du coup, tant que tu as la parole, de quoi a besoin donc un maraîcher pour s'installer? Donc il a besoin d'une terre, mais pas juste une terre. On parlait de pollution des sols, on parlait... je ne sais plus de quoi on parlait, mais voilà, de quoi tu as besoin, toi? Tu n'as pas juste besoin d'une terre, il y a quand même d'autres éléments.
Oui, en effet, il y a donc vérifier que notre sol est sain, qu'on puisse cultiver sereinement et faire du bio. Donc après, on a besoin de la biodiversité, de l'accès à l'eau, de pouvoir aussi construire sur place pour pouvoir être logé, donc pour pouvoir surveiller nos cultures, et du coup, et de créer une biodiversité sur l'ensemble de notre ferme pour pouvoir cultiver et se diversifier au maximum.
Et du coup, là, si on peut parler aux entreprises, aux collectivités, quelles seraient les demandes des maraîchers auprès des personnes qui gèrent justement ces espaces?
De préserver les terres, les rendre non constructibles et les préserver pour l'agriculture urbaine, se vérifier, comme on disait tout à l'heure, qu'elles ne soient pas polluées. Et après, quoi d'autre? Je ne sais plus. C'est déjà pas mal. Et l'eau, l'accès à l'eau, bien sûr.
Du coup, on accueille Jean-Louis Chomel avec nous. Merci d'être arrivé. Et on parlait de la pression foncière, et en préparant la réunion, on se disait qu'il y avait aussi tout ce foncier caché sur les bâtiments existants. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, au niveau du foncier caché et du foncier perdu, surtout, on a les toitures, puisque en fait aujourd'hui c'est un gros sujet de discussion sur le bâti, où effectivement on a des bâtiments avec des toitures qui ne servent pas forcément à grand chose, si ce n'est qu'on essaye de les calfeutrer pour essayer d'éviter les déperditions thermiques. Et du coup, l'idée, ce serait, pourquoi pas, au lieu de mettre uniquement de la végétalisation, pardon, je suis un peu essoufflé, uniquement de la végétalisation comme on le fait, on va dire, un peu plus habituellement maintenant, pourquoi ne pas l'utiliser avec du maraîchage? Alors l'intérêt, merci. L'intérêt de ça, ça permettrait effectivement conserver cette isolation que l'on a avec juste de la végétalisation. Et c'est surtout que ça permettrait également d'avoir un entretien régulier et un point de rencontre qui est plutôt inhabituel, mais qui permettrait effectivement de réutiliser l'espace que l'on n'a pas aujourd'hui.
Merci Jean-Louis. Et du coup, je peux te laisser passer le micro à Charles. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'association La Glutamine, justement, œuvre en ce sens ?
En fait, c'est très simple. C'est parti d'un constat. On s'est aperçu effectivement que sur la Nouvelle-Aquitaine, on avait 90 demandes en fait, d'installation de maraîchers de façon mensuelle, mais qu'à la suite en fait, d'un processus d'accompagnement, il y avait réellement en fait, que deux maraîchers qui arrivaient en fait, à être suivis par le secteur bancaire et du coup acquérir un foncier agricole. Donc l'idée de l'association est très simple, c'est trouver en fait des solutions pour réinjecter des maraîchers, pas simplement en fait sur leur foncier agricole, puisqu'on va tenter d'équiper ces maraîchers avec cette activité parallèle en plus du maraîchage, pour avoir une activité soutenue en fait toute l'année, et leur permettre de pouvoir intervenir justement sur des toits d'immeubles existants, sur des cours effectivement de bailleurs sociaux, au sein d'écoles, puisque la minéralisation et le côté bétonné en fait, qu'on connaît dans toutes nos villes, on a vu cet été en fait, les effets négatifs des hautes températures. Et donc on a besoin effectivement de reprendre le dessus sur le béton grâce à la végétalisation. Et l'une des solutions pour le faire, c'est d'accompagner ces maraîchers en leur apportant en fait, des compléments de revenus qui vont venir effectivement parfois d'institutions, parfois d'entreprises. Parfois effectivement de simples riverains qui vont leur demander en fait de venir défoncer les belles pelouses Roundup et envisager effectivement des buts et des cultures hors sol pour permettre à des personnes par exemple âgées ou handicapées de pouvoir justement se réapproprier ces espaces. Et un terme qui est si cher effectivement au bocal local, faire du potaginage. Donc le potaginage, c'est tout simplement se réapproprier ces espaces de diverses sortes, et les maraîchers en fait sont une solution pour amener cette transition. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que Los Angeles envisageait en fait de peindre ses routes en blanc pour diminuer la chaleur en été. Je pense qu'il y a d'autres solutions avant d'utiliser de la peinture qui vient d'énergie fossile pour justement revégétaliser et faire baisser les températures de nos chères villes si bien peuplées et permettre pour une fois de planter des plantes comestibles pour qu'en plus elles aient un usage dans notre quotidien.
Et alors en fait, on va commencer avec la glutamine à planter du comestible en ville.
Alors en effet, la métropole, avec l'aide des espaces verts, nous a permis effectivement dans le Jardin des Lumières, qui se trouve entre le miroir d'eau et la maison éco-citoyenne. Donc la maison éco-citoyenne, c'est le bâtiment que vous trouvez justement à côté du pont Pierre. Et ils viennent de nous offrir, en fait, pendant un an, une bande de 50 mètres carrés qu'on a commencé à travailler grâce à un collectif de fermiers qui s'appelle Farming Soul. On a travaillé les sols, justement, avec un vélo-tracteur que vous pourrez découvrir, justement, à la ferme urbaine, donc la glutamine, dans les prochains jours, puisqu'on est présent jusqu'au 3 novembre. Et l'intérêt, c'est que cette planche de culture qui nous a été mise à disposition pendant un an n'avait jamais reçu en fait de légumineuses et du coup de semences en fait nourricières. Donc ce qui est génial, c'est que pendant un an, on va cultiver en fait des semences qui ne sont pas F1, qui ne sont pas hybrides et qui font partie effectivement des semences paysannes. Et le gros intérêt, c'est qu'on va respecter un cahier des charges puisqu'on doit récupérer des plantes qui respectent les couleurs vert de gris et bordeaux. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire découvrir à bon nombre d'urbains ce qu'est effectivement le pourpier, ce que sont les épinards qui changent de couleur en fonction des variations de température, et tout un tas de crucifères et de cucurbitacées dont on ne connaît pas les noms, blue bard, blue ballet et tout ce qui s'ensuit. Et donc l'intérêt, c'est que les urbains vont pouvoir venir visiter ce jardin et aider en fait les différentes associations autour de nous, que ce soit les incroyables comestibles, que ce soit le bocal local, que ce soit la glutamine, que ce soit Guillaume ici présent, à venir en fait se réapproprier cet espace et planter justement ces semences anciennes et paysannes.
Donc dans la ferme idéale, il y a des semences paysannes, il y a un terrain, mais tu parlais tout à l'heure d'habitat. C'est une vraie question qu'on s'est posée à la glutamine et on est parti sur une tiny house. Peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi et ensuite passer la parole à Nicolas sur la conception de la tiny house.
On s'est aperçu en fait en regardant les différentes structures associatives et sur la région Aquitaine que tous les processus en fait de mise à disposition de terres pour les maraîchers comportaient un problème majeur, c'est que la plupart du temps, un maraîcher génère un revenu de 680 euros. Donc je vous laisse imaginer en fait ce qui vous reste à vivre pour vous loger quand vous avez un montant pareil à disposition. Et donc on constate en fait des maraîchers qui vivent dans des conditions déplorables, dans des caravanes bien souvent un peu obsolètes. Des habitats effectivement avec la terre battue à l'intérieur et d'autres habitats dont on ne parlera pas ici parce que ce n'est pas le but. Et donc ce qu'on a constaté, c'est que ces maraîchers en fait, ont un gros problème de mouvement pendulaire. Je prendrai l'exemple de notre mère semencière qui s'appelle Caroline Miquel, qui tous les jours en fait, est obligée de faire 50 km entre son jardin, qui s'appelle le jardin inspiré, et son habitat. Et donc, le premier constat, c'est de s'apercevoir que pour faire ces 50 km, elle doit avoir un véhicule. Ensuite, elle dépense énormément, effectivement, d'argent pour nourrir ce véhicule, l'entretenir, l'assurer et tout ce qui s'ensuit. Et la fatigue aidant, quand vous avez des hautes chaleurs en été, ben, il peut être agréable, effectivement, pour un maraîcher qui commence en général entre 5 et 6 heures pour justement travailler à la fraîche, de pouvoir se reposer en cours de journée quand le soleil est au zénith et éviter de repartir chez lui, justement, en se posant sur son terrain pour recharger les batteries avant de reprendre de l'activité quand le soleil va décliner. Et donc la solution qui nous a semblé la plus optimum, Nicolas va vous la décrire, mais c'est un logement très frugal parce qu'il est très bien isolé, donc on n'a pas besoin de le chauffer, on n'a pas besoin de le climatiser. Donc ça aussi, c'est des économies d'échelle auxquelles on ne pense pas au démarrage, mais qui sur la durée sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont frugales, donc on minimise la consommation d'énergie fossile et d'électricité. Et autour de ça, le concept de la ferme de la glutamine est allé chercher en fait des solutions qui existent autour de nous depuis plus de 35 ans. Vous pourrez constater qu'on a une éolienne en fait qui s'appelle une pigotte. Et du coup, on réussit grâce à ça à être en autarcie énergétique totale. Et ça aussi, c'est des évolutions sur le logement. On connaît tous effectivement la réglementation thermique 2020. On va avoir besoin effectivement d'avoir des habitats à énergie passive. Et là, vous allez pouvoir visiter justement le plus petit habitat de France à énergie passive. Donc, je vous parlerai un peu plus tard de tout ce qui est alimentation hydrique, puisqu'on phyto-épure les eaux de cette tiny house et on est capable de récupérer en fait le compost issu des toilettes sèches pour générer de la chaleur, pour alimenter juste par fermentation l'eau chaude sanitaire de ce tiny house. Mais je vais laisser effectivement la main à un spécialiste.
Bonjour, donc tu as dit pas mal de choses déjà. Donc la tiny house, j'invente rien, elle est née aux États-Unis en 2008 après la crise des subprimes. Donc les gens n'avaient plus d'habitat, donc se sont retrouvés dans la rue et ont inventé donc ce type d'habitat très roulant. Donc les normes américaines ne sont pas les mêmes que les nôtres, donc on ne peut pas faire ce que font eux, mais par contre on a quand même un champ de possibles. C'est-à-dire que comme il disait Guillaume, les terrains sont souvent inondables, souvent non constructibles. Et ce type d'habitat en fait, révolutionne un petit peu tout ça parce qu'il est sur roue. Donc on peut le mettre où on veut, on l'enlève quand on veut. Et il n'a pas d'impact au sol, bien sûr. Donc ensuite, après, il faut travailler aussi l'architecture, le design, pour pas qu'on soit non plus dans ce que disait Charles, dans la précarité, dans la saleté, ainsi de suite. Donner en fait de la dignité aux maraîchers, je pense. Et donc voilà pourquoi toutes les idées se sont on va dire, retrouvées, mêlées en discutant, en partageant, en faisant le constat de tout ce qui se passe. Et on est arrivé donc à créer petit à petit, bout à bout, cette petite ferme urbaine. Voilà.
Et il y avait aussi la notion de permis de construire qui est posée par la tiny house.
On a le droit, donc c'est pour ça que je disais ça. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de droits que nous, enfin, ou moins de contraintes. En France, on a le droit de poser une tiny donc sur un terrain qui nous appartient, donc un terrain privé, sans aucune autorisation. Donc on peut la poser autant de temps qu'on veut. Et ensuite, quand c'est sur un domaine public, on demande un AOT. Donc, c'est-à-dire qu'on négocie avec la mairie un AOT, un certain temps de mise à disposition du terrain. Voilà. Donc après, on négocie Et on fait, pour les maraîchers, s'il y a quelque chose de réel derrière, on négocie 2, 3, 4, 5 ans. Et ensuite, pas d'impact, donc on enlève et on va ailleurs. Voilà.
Et pour ceux qui ne l'ont pas visité, à quoi il ressemble cette tiny house? Combien elle mesure? Est-ce que tu peux nous peindre un plan de la tiny house?
Combien elle mesure? Moi, j'ai pris la remorque la plus grande qui puisse exister. Pas pour faire, c'est vraiment pour avoir une sensation d'habitat. Trop petit, je trouvais ça pas franchement. On est trop serré. Là, on commence à avoir un volume de 20 mètres carrés, 24 mètres carrés avec la mezzanine. Donc, c'est un petit studio dont beaucoup de gens habitent dans Bordeaux. Bon, ben là, on a la nature avec, quoi. Elle ressemble à une petite grange américaine. Ça, c'est mon style. Ça, c'est moi qui l'ai voulu. Avec du bois canadien, donc qui lui donne son côté racé, un peu punchy. Donc ça, c'est pour marquer en fait qu'on peut faire du design avec du petit habitat, du micro habitat, et pas en fait avoir des matériaux qu'on trouve partout et que tout le monde a. Avec le même prix, c'est ça qui est bluffant, c'est qu'avec le même prix, on peut faire du design. Alors pourquoi? Parce que j'ai mis au point en fait une construction bois innovante. Qui reprend le DTU et qui le simplifie au maximum.
Le DTU, c'est quoi ?
Le DTU, en fait, c'est ce qui permet à la construction, on va dire, d'être validée par un bureau d'études pour que les structures tiennent, pour que les portées, pour tous ces calculs-là, voilà. Les anthrax entre bois et ainsi de suite. Moi, je l'ai repris et j'ai simplifié tout ça à ma façon. Voilà. Donc, j'exploite en fait l'innovation de ce truc-là, qui me donne en fait la possibilité de l'argent qu'on ne met pas dans cette structure, on le met ailleurs. Il n'y a pas besoin de beaucoup, en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour arriver à contrebalancer ce design qui manquait ou qui manque sur certains habitants.
Et combien de personnes peuvent vivre dans cette tiny house?
Alors moi, je dirais deux. Deux, ça, c'est bien. Avec des enfants, c'est un peu compliqué. Je pense que il faudrait les mêler, en mêler quelques-unes, ou alors carrément créer un autre aspect de la tiny house qu'on est en train de développer justement avec Michel, qui n'a pas de roue, mais par contre qui est transportable. Donc ça veut dire qu'on peut succéder les habitats qui n'ont pas d'impact au sol du tout. Il n'y a aucun impact au sol, qu'on prend, qu'on déplace, et qu'on peut surtout coller les uns aux autres. Donc on peut doubler la surface d'habitation, 40, 50, enfin voilà. Tout dépend de du besoin qu'on a, c'est tout. Et ensuite, donc je vais plus loin, c'est que ces bâtiments-là sont des vraies maisons. Donc, vous les achetez ce prix-là en 2017, en 2025, elles auront ce prix-là. Elles ne décoteront pas, c'est des vrais matériaux de construction. Donc, vous ne perdez pas, en fait. C'est un très bon investissement.
Ça vaut combien?
La petite tiny qu'on voit sur les quais, elle est à 40 000 euros, tout équipée. C'est un budget, mais vous la revendrez 40 000 euros dans X temps.
Tu voulais rajouter quelque chose, Michel?
Oui, on discutait, c'est pas, par exemple, là on pourrait croire, vu qu'il n'y a pas d'image, c'est pas un mobilhome, on est dans quelque chose qui est différent, c'est vraiment une micro-architecture, une petite maison. Et là on a poussé un petit peu l'envie et surtout la nécessité, c'était de rendre totalement autonome cette maison. C'est-à-dire, comme l'a expliqué Nicolas, une première chose, réversibilité du terrain. Ça implique forcément des fondations, pas de fondations, du moins un système juste de vis qui peut être mis et enlevé. Et l'autre chose, c'est les réseaux. Comment on accède à l'électricité, comment on traite l'eau qui est utilisée, comment on se chauffe. Et la différence, on va dire, une grande différence, elle est premièrement spatiale. On est sur quelque chose qui est entièrement en bois, une structure bois, une isolation bois, un intérieur bois, un extérieur bois brûlé. Je parle là du nouveau concept qu'on a, qui est différent de la tiny house qui est sur les quais. Et après, c'est le jumelage. Ce jumelage, les maisons, elles sont pensées toujours avec un monopente orienté au sud, des panneaux photovoltaïques, qui peuvent après se dupliquer, se rajouter. Et on a aussi poussé le transport dans le sens où on allait au maximum du convoi exceptionnel, qui fait, on va dire, 9 mètres par 3 mètres au sol sur 3,50 de hauteur. Et aujourd'hui, on est en train de voir pour bientôt vous la présenter. Donc voilà, il faut suivre l'évolution de Nicolas, My Little Loft, dans le secteur.
Et justement, tu parlais d'énergie. Comment on peut réduire son impact énergétique quand on est fermier? ou maraîcher. Pareil.
Alors, que l'on soit fermier, maraîcher ou tout simplement même on habite chez soi dans une maison, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de règles. Alors, tout le monde vous parle de RT 2012, de RT 2018, de RT 2020. En fait, la RT, en fait, ce ne sont simplement que des textes qui vous limitent à des minima ou à des maxima si c'est de la consommation, bien entendu. Mais hors ces limites, on peut en fait tout à fait avoir des gestes simples du quotidien, puisqu'il faut savoir que sur un habitat traditionnel, juste avec un peu d'éducation, juste avec un peu de réflexion, c'est au moins 40% d'économie. Donc, on ne révolutionne pas le monde. Ce n'est pas parce qu'on a pondu des RT dans tous les sens et qu'on va en faire d'autres. C'est juste de faire un petit peu attention. Alors, déjà, quand on en a réduit 40%, je peux vous assurer que ça fait déjà une différence à la fin du mois ou de l'année. Comment on peut, dans une tiny house ou une maison un petit peu éco-conçue, tout simplement, c'est essayer d'aller vers moins de consommation à énergie fossile, aller un petit peu plus vers de l'énergie renouvelable. Mais qui dit énergie renouvelable ne veut pas dire qu'on consomme parce que c'est gratuit. C'est uniquement comment on va mieux le gérer, comment on va mieux l'organiser, comment on va mieux adapter en fait son mode de vie. Ça ne veut pas dire qu'on revient à l'âge de pierre, ça ne veut pas dire qu'on régresse dans notre confort. C'est juste un mode de... Ça va au-delà de juste j'ai débranché un appareil ou j'ai éteint un appareil. C'est aussi une façon de penser. Alors, c'est une façon de penser. On sait que les habitudes, c'est difficile à enlever, que ça nécessite un peu de temps. Mais je pense qu'avec des projets comme celui-ci, avec plein d'autres projets qui se mettent en place, et notamment là en ce moment sur les quais, vous allez voir qu'en fait, il y a des tas de solutions qui ne sont pas restrictives, au contraire, puisqu'on aurait tendance à prendre plein d'autres bonnes choses, comme du plaisir, de la rencontre, parce que ce qu'on n'a peut-être pas abordé avant que j'arrive, mais il faut savoir que le maraîchage, le fait de prendre des lieux pour faire ce genre d'action ou d'activité, même si elle est nourricière, elle est aussi, et à mon sens, encore plus davantage sociale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lieu où les gens vont pouvoir se re-rencontrer. Et quand je dis re-rencontrer, c'est pas juste « Ah, j'ai vu un tel et je lui ai fait un signe de la main ». C'est juste qu'on va pouvoir échanger. Et ça, ça paraît peut-être rien, mais ça change énormément dans notre manière de voir les choses et dans notre manière d'envisager les choses. Et ça rentre aussi dans le processus de comment je m'éduque et comment je vais faire un peu attention, simplement en débranchant ou en éteignant quelques appareils chez moi, qui font qu'à un moment donné, je consomme moins. Je ne dis pas qu'il faut être vertueux systématiquement, mais juste d'en prendre conscience, vous allez voir que ça va faire déjà une différence.
Et justement, à la glutamine, on est un peu comme un laboratoire, un lieu de test où on s'exerce. Et Charles, tu peux juste expliquer comment va être accueilli un maraîcher à la glutamine, qu'est-ce qu'on lui propose et en quoi on s'inscrit dans cet idéal qu'on imagine.
Je rebondis justement sur le fait de se croiser, de se parler et de se re-rencontrer. L'idée, effectivement, de la glutamine, c'est de créer un coworking agricole. Donc, le mot coworking, vous le connaissez tous, effectivement, dans vos bureaux et ailleurs. Mais là, l'idée, c'est de créer justement un micro-village autour d'une ferme. Mais ensuite, en incubant des maraîchers sur ce terrain, on permet en fait à chaque maraîcher d'avoir son chez-soi et de pouvoir justement le midi et le soir fédérer autour d'un repas au sein de la ferme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le maraîcher a envie de s'isoler et de se retrouver justement dans son intimité, grâce au tiny house de l'équipe de My Little Loft, on peut se permettre effectivement de se retrouver en recul. Je rebondis justement sur les énergies. On a en fait assemblé tout un tas de choses autour de ce tiny house, c'est-à-dire une boîte à la ferme, le conteneur que vous pourrez visiter. Comme le tiny habituellement était connecté à l'électricité et que nous, sur les parcelles où on installe les maraîchers, il n'y a pas forcément justement cette électricité, on a combiné en fait des outils et le fait de les combiner, on les a justement interconnectés. On a une éolienne qui fournit 2000 watts à l'heure. Cette éolienne, en fait, quand elle a rechargé un vélo tracteur qui fait 48 volts, ben on peut se permettre de connecter, en fait, non pas sa Tesla, mais son vélo tracteur à sa maison. Et le vélo tracteur, en fait, va alimenter les prises de la Tinia où sont 12 volts, avec non plus des prises comme vous les connaissez classiques, mais des simples prises USB au mur. Et avec ça, vous allez pouvoir recharger votre ordinateur, votre téléphone, une télévision, puisque aujourd'hui, vos écrans d'ordi vous permettent de vous substituer à tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on permet justement aux maraîchers de vivre de façon frugale, mais avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une régression, on n'est pas en train de retourner et de revenir en arrière. De la même façon, les équipes, je vous parlais de ce vélo tracteur, avec des outils qui ont près de 2 ou 3 siècles, mais qu'on avait oubliés. Et de par ces méthodes justement de culture un peu différentes et assistées par ce vélo tracteur, on peut envisager en fait une autre forme d'agriculture beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus frugale. Une anecdote aujourd'hui, en travaillant avec des composteurs spécialisés, avec une équipe qui s'appelle Aura du Sol, on est capable en fait de fournir le méthane de la plaque de cuisson de la Tiny House grâce à un méthaniseur individuel. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des techniques en fait qu'on a tenté de nous interdire depuis une trentaine d'années en France. Et bizarrement maintenant, on est en train de faire en fait un revirement. Et c'est ce qui permet en fait à cette Tiny d'être terriblement innovante. C'est qu'on est allé combiner des méthodes qui existent tout autour de nous, mais le fait en fait de façon frugale de toutes les agréger. Mais je vous invite en fait à venir partager un instant à l'intérieur. Vous pourrez visiter la chambre qui est très spacieuse. Vous pourrez visiter la salle de bain qui est ouf, parce qu'en fait, il y a plus de place dans la salle de bain du Tiny que dans bien des appartements bordelais. Maintenant, je vais vous expliquer effectivement l'intérêt de tout ça. On a des spécialistes dans la salle. Le but, c'est d'installer des maraîchers sur une surface de 4000 m² leur première année d'installation et les laisser en fait se posséder, en fait, plutôt s'adapter en fonction de la typologie du terrain, parce que ces 4000 m² la première année vont leur permettre de démarrer. Comme Guillaume vous l'expliquait tout à l'heure, en maraîchage, on fonctionne en fait avec un mode associatif qui s'appelle les AMAP. Je ne sais pas si tout le monde connaît dans la salle, mais l'intérêt, c'est qu'on a en fait des adhérents qui suivent votre projet, qui vous font confiance, qui vous permettent de payer votre future production en avance. Et ça permet en fait à nos maraîchers de respirer, parce qu'ils savent en fait ce qu'ils ont à produire, pour qui ils le produisent. Et comme il y a une distribution en fait organisée une fois par semaine et qu'on peut permettre en fait aux adhérents de venir à la ferme, ramasser eux-mêmes certains petits légumes, certains petits fruits, il y a une véritable relation qui se crée. Et on a eu tendance en fait avec les 30 Glorieuses d'être complètement détachés de ce qu'on consomme. Et là, je vais repasser la parole justement à Guillaume et il va vous expliquer en fait cette mise en relation.
Donc, j'étais ailleurs. Je t'écoute parler, mais je connais le discours, c'est pour ça.
Non, mais peut-être que, peut-être pour rebondir moi, et avancer dans la conférence, peut-être juste, on a donné plein d'exemples de choses vertueuses qu'on pouvait mettre en place, mais quel est l'impact finalement de toutes ces actions sur notre alimentation, sur l'environnement, au niveau socio-économique ? Peut-être que tu as des éléments là-dessus.
L'impact du maraîcher qui va s'installer en ville, c'est comme un impact environnemental, qu'on le veuille ou non. On séquestre du carbone, on préserve la biodiversité. Ces espaces de culture en ville nous permettent aussi de réintroduire les eaux de pluie dans nos sols, dans nos nappes phréatiques. Donc il y a vraiment quand même du bon sens à réintroduire proche des grosses villes des maraîchers par rapport vraiment à ce cercle vertueux vraiment de environnemental qui permet déjà de se nourrir sainement. Donc l'environnement et aussi
L'intégration économique de maraîchers.
Oui, l'intégration, et puis on crée de l'emploi aussi. Puis recréer du lien social avec les habitants selon les endroits où on est. Créer des événements culturels éventuellement autour de ça. Donc il y a vraiment un intérêt bénéfique et commun pour la population urbaine.
Merci. Avant de passer à un petit temps de questions-réponses, vous avez peut-être vu, on a collé des post-it sur vos chaises. Je ne vous l'ai pas dit en intro. L'idée, c'est commencer à réfléchir si vous pouviez, à votre échelle, que ce soit au bureau, chez vous, dans le cadre de votre profession, mettre en place une action pour une ferme urbaine idéale. Quelle serait-elle? Je vous laisse y réfléchir, vous n'êtes pas obligé de l'écrire maintenant, on ramassera les post-it si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de nous le rendre, ce n'est pas une interrogation. donc on récupérera les post-it. L'idée, c'est de nous amener à continuer à avoir plein d'idées vers ce sujet. Et du coup, maintenant, on va vous laisser poser vos questions parce qu'on vous a déjà donné beaucoup d'éléments. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Alors, vous allez accueillir des agriculteurs, des producteurs pendant un an sur le
2 à 3 ans.
2 à 3 ans, enfin, une durée limitée. Mais après, justement, comment vont-ils s'installer? Où vont-ils s'installer? Est-ce que vous les accompagnez pour trouver un terrain?
Charles?
On a que 2 minutes.
En fait, l'intérêt, c'est de donner l'envie aux institutions qui sont autour de nous de se réveiller. L'idée de la Glutamine, c'est une association indépendante. Et de par en fait, le rayonnement et le magnétisme de ce champ, parce que maintenant, en fait, on n'est plus dans un simple champ, on crée en fait un champ magnétique autour de ce projet. Et c'est de montrer en fait, qu'on peut donner l'envie. Et je vais vous donner une anecdote, j'en ai des frissons. Hier matin, on a en fait un monsieur qui s'est présenté à l'association et qui nous a offert 1 hectare. Et c'est juste fabuleux, parce qu'à côté de Langon, ce terrain est agricole, il ne savait plus quoi en faire. Ça n'intéressait pas en fait, les agriculteurs du coin parce que c'était trop petit. Et nous, ça va juste nous permettre en fait, d'aider 2 maraîchers des alentours de Langon à s'installer, à démarrer leur activité, à consolider en fait, un chiffre d'affaires sur 2 ou 3 années. Et grâce à ça, on a déjà 3 groupes bancaires qui nous ont proposé de financer les futurs fonciers agricoles de ces maraîchers à des taux d'intérêt inférieurs à 0,5%. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous connaissez les taux d'intérêt actuels, mais quand on voit en fait que des banques maintenant mouillent la chemise pour nous accompagner sur ces problématiques, j'ai juste le sentiment qu'on va créer un raz-de-marée en fait au niveau national. Et on a une demande en fait d'une des élues de M. Juppé ces derniers jours qui nous a demandé si on était capable d'installer une Glutamine au lac. Parce qu'en fait, il y a des centaines d'hectares inondables. Pour nos maraîchers, c'est parfait, parce qu'on sait rehausser une tiny house et on peut même la faire flotter si on le souhaite. Donc, que les terrains soient inondables, c'est très bien, parce que c'est des terrains qui sont riches. Et ça nous donne, en fait, dans la tête, plein d'idées, plein d'espoir, et ça nous permet d'avoir un avenir radieux. J'espère que je réponds correctement à vos questions. Voilà.
J'avais une question parce que ce qui fait la force aussi du changement agricole actuel, c'est le réseau. Du coup, je me demandais si vous étiez impliqué dans le réseau national des espaces test agricoles et si au-delà de l'infrastructure du terrain, la tiny house qui est énorme pour un maraîcher, quel accompagnement sur la comptabilité, l'administratif, les statuts, qui est aussi, surtout quand on est non issu des milieux agricoles, une grosse épine dans le pied pour se lancer.
Ben c'est génial. Je vais laisser Sarah en fait à répondre à cette problématique.
Sarah est multitâche.
Parce que Sarah va vous expliquer en fait l'enjeu de la création en fait d'un centre de formation et justement former les maraîchers à autre chose que de l'agriculture pure.
Alors oui, du coup, je reprends la parole. Du coup, on va créer à partir de septembre 2018 un centre de formation qui sera à la fois pour des jeunes qui veulent se lancer, alors jeunes dans le maraîchage, il n'y a pas de limite d'âge, et aussi pour les particuliers souhaitant acquérir un peu plus d'autosuffisance alimentaire. Et effectivement, dans les formations professionnalisantes, il y aura des techniques agricoles, c'est sûr, mais aussi un accompagnement comptable, en communication, parce qu'il faut se faire connaître aussi quand on commence. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment des formations holistiques, donc qui balayent un peu tous les besoins quand on va se lancer dans le maraîchage.
Donc, au niveau du réseau, en effet, on travaille en fait de très près avec différentes institutions existant déjà, la Confédération paysanne et d'autres. Et le but, en fait, c'est pas de rester dans notre coin et de faire ça tout seul, c'est d'être accompagné par des structures existantes déjà. Là, vous parliez du réseau effectivement national de Terre de Liens. Bien évidemment, le but, c'est pas de rester dans son coin. Toutes les démarches qui sont positives, vertueuses, qui peuvent aider l'agroécologie, on les soutient.
Oui, là, vous parliez de formation. Il y a déjà des formations qui existent, qui sont officielles, avec des diplômes à la clé, pour pouvoir s'installer. Et c'est obligatoire d'avoir un certain nombre de ces formations pour pouvoir s'installer et devenir agriculteur aujourd'hui. Ce qui pêche le plus, alors aujourd'hui, Et c'était un peu le cercle vertueux, c'était les femmes d'agriculteurs qui faisaient l'administration, qui faisaient toute la paperasse et tout. Et de plus en plus, eh ben, ce modèle-là, il commence à être caduque parce que les femmes sur les fermes, elles n'ont pas trop envie de se taper tout le boulot. Et en plus, elles n'ont pas de reconnaissance, à moins qu'elles soient associées GAEC et autres, qu'elles soient dans le... Ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi comment on peut mutualiser ces postes. C'est plutôt dans les groupements d'employeurs qu'il faut aller. Parce qu'à ce moment-là, ça permettra de dégager du temps à l'agriculteur, aux paysans, aux maraîchers et autres, ou à l'éleveur ou autres. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Ce n'est pas de faire une formation supplémentaire par rapport à bon, peut-être des petits stages, des choses comme ça, c'est intéressant. Mais ce qui serait intéressant, c'est de creuser, parce que ça a été fait sur la Gironde. On a poussé dans d'autres domaines les groupements d'employeurs et c'est vraiment une mine d'or parce que ça permet même pour les saisonniers, parce qu'on peut faire aussi des groupements d'employeurs des saisonniers, de ne plus être des tâcherons. Voilà.
Juste sur la complémentarité du centre de formation, des formations holistiques avec une vision permaculturelle, j'en ai pas trouvé aujourd'hui. Alors, ben, on pourra en discuter, mais effectivement, en tout cas, sur le territoire, je pense qu'il y a besoin d'une offre complémentaire et c'est une demande qui nous a été faite. Et donc, sur la gestion administrative, Charles, tu voulais réagir ?
Ben, en fait, l'association commence à rayonner un tout petit peu. Hier, on avait la visite d'un expert comptable et d'un commissaire aux comptes. Et la chance qu'on a eue, c'est que ce monsieur, en fait, avec un collectif, est à la retraite. Et l'intérêt en fait, de ce collectif, c'est de mutualiser justement des énergies. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'en mutualisant en fait, plusieurs maraîchers sur un lieu dit, on allait permettre en fait, à ces maraîchers de mutualiser un comptable avec d'autres structures. Ça se fait déjà, mais le fait, en fait d'agréger sur un même terrain, pas simplement des maraîchers, puisqu'on a dans la salle effectivement la directrice du bocal local, et c'est des économies d'échelle qui sont envisageables. Quand on a la chance en fait, d'avoir 16 personnes qui travaillent justement sur le travail de conserve de façon éthique, avec de l'insertion professionnelle, et que cette structure tourne déjà, et qu'à côté, en fait, on a en plus une quinzaine de maraîchers, eh bien, on peut se permettre en fait, sur un lieu unique d'agréger en fait, tous ces coûts et de les faire baisser, tomber. Voilà. Donc, la force, ce n'est pas d'être des individus isolés, c'est de mutualiser en fait les compétences de toutes ces bonnes énergies et de leur permettre justement d'avancer.
Oui, juste une petite remarque. Au niveau de vous avez parlé de ferme, donc on parle de ferme urbaine. J'ai pas entendu de rapport à l'animal, par exemple. Vous avez évoqué les plantations, mais du coup, la place de l'animal
Alors, la place de l'animal, en fait, elle dépend des envies en fait, de chaque maraîcher. Puisqu'on n'impose pas en fait, à un maraîcher son mode de culture. On le laisse, effectivement, s'il souhaite avoir des animaux, s'installer. Pour vous donner un exemple, moi, je m'installe en fait, avec 249 poules pondeuses. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais chaque maraîcher en fait, va pouvoir avoir ses polycultures. Et bien évidemment, on a intérêt à travailler avec différents conservatoires, par exemple des races anciennes qui existent en Aquitaine, pour réintroduire, pour continuer de soutenir et justement pour permettre à ces maraîchers, dans leur activité, d'avoir effectivement des compléments pour être plus stables. Pour vous donner une idée, on va en fait par jour recevoir quasiment une tonne de biodéchets. On pouvait en fait laisser ces biodéchets pourrir, mais on s'est aperçu en fait en faisant des parcs de compost, entre guillemets, avec l'arrivée de façon journalière de cette tonne de biodéchets, ben laisser dans un premier temps les animaux venir picorer en fait dans ces tas, ce qui est fait encore partie du domaine du comestible, que nous, humains, on n'aurait pas envie effectivement d'aller recycler, mais une poule, des moutons, effectivement, et d'autres animaux vont se régaler. Et la deuxième partie, c'est qu'on va effectivement devenir sur ces 6 hectares et demi, mais en fait, des éleveurs de lombrics. On va quasiment en élever 150 000. Voilà, donc je me prépare en fait à devenir dresseur de lombrics.
Moi, j'avais une question plutôt par rapport au foncier. Imaginons, je suis un jeune agriculteur et je veux m'installer sur un terrain agricole parce que j'ai les moyens d'acheter quelques hectares, disons 3 ou 4 hectares. Est-ce que je peux avoir un accord avec une mairie pour transformer le plan d'urbanisme et construire sur mon terrain ou est-ce que c'est complètement inenvisageable ?
Bonne question. Il y a possible de négocier avec la mairie ou même avec la SAFER, si c'est l'intermédiaire. Encore, mais c'est mieux la mairie quand même de voir avec eux. En principe, ils sont quand même, il y a une ouverture d'esprit qui commence à se faire avec cette volonté d'installer des agriculteurs. Donc il y a possibilité d'avoir... oui, ils le font, hein, il me semble. Quoi, pour nous, en fait, s'ils soutiennent le projet, il n'y a pas de raison qu'ils vous interdisent d'avoir votre logement et d'avoir les bâtiments nécessaires pour la production. Il faut juste rencontrer les élus et présenter votre projet.
Je vous donne une anecdote. On communique maintenant depuis plus de 3 ans avec le maire de Tresse, M. Soubi. Et la semaine dernière, en fait, on a été très surpris. On a reçu en fait une demande d'amis sur Facebook. Et c'était en fait M. Soubi avec son visage avec lequel il communique avec l'ensemble des habitants de Tresse. Et samedi matin de la semaine dernière, on a eu un petit coup de fil de sa part qui nous expliquait en fait qu'il soutenait le projet. Donc c'est plutôt agréable effectivement de savoir que en densifiant et en agrégeant en fait les demandes de plusieurs personnes, ben on commence justement à faire bouger les institutions.
Juste un complément de réponse. On peut effectivement construire en zone agricole dans le PLU, mais si tu veux construire ton habitation, il faut justifier d'une nécessité. Pour voilà, ton activité agricole doit nécessiter la présence sur place. Et je sais que sur le maraîchage, c'est un peu limite. Et il y a encore besoin de convaincre la chambre d'agriculture pour justifier la nécessité d'être présent, ouvrir les serres, etc. Du coup, ma question, c'est quelle relation avec la chambre d'agriculture ?
Eh bien, on a eu, en fait, avec grande surprise, le soutien de la chambre de l'agriculture qui a reconnu, en fait, l'installation d'intérêt général et d'utilité publique. Et donc, ça fait partie, effectivement, des coups de pouce qui aident et qui vous mettent en confiance et qui vous donnent envie, en fait, d'aller plus loin et, voilà, d'avancer main dans la main, voilà, sur ces beaux projets.
Il nous reste 5 minutes, donc on peut prendre encore 2 questions, je pense.
Alors moi, j'avais une question un peu plus générale. En fait, vous êtes revenu sur l'importance du foncier, notamment le fait que les terres agricoles étaient quand même beaucoup grignotées par la promotion immobilière de plus en plus. Du coup, est-ce que vous intégrez dans vos réflexions le fait de, cultiver, par exemple, en vertical, donc cultiver plus en hauteur, davantage en hauteur, pour justement cultiver sur des surfaces qui sont plus petites. Est-ce que ça, vous l'ancrez dans votre réflexion ou vous êtes plutôt sur un modèle, on va dire, plus classique de ferme sur un terrain basique d'un hectare ou plus
On a eu des demandes en fait, de bailleurs sociaux qui avaient en fait, des esplanades grâce au bocal local complètement minéralisé. Et du coup, en fait, on a commencé à délirer et à créer des modules à partir de bois recyclé qui plaisent énormément en fait, à toutes ces institutions. Donc je parle des différents bailleurs sociaux. Et maintenant, on a des demandes en fait, d'écoles qui nous demandent, sur des espaces qui sont terriblement minéralisés, d'apporter des solutions. Donc si vous venez nous visiter sur l'esplanade de la MEC, vous apercevrez qu'on a en fait une tour qui s'appelle 50 nuances de fraises, qui permet sur tout juste 30 cm² d'occupation au sol, d'avoir 5 m² de culture de fraises, et puis pas n'importe lesquelles, c'est des maras des bois. Et on va installer en fait, dans la journée une ferme à salade qui, sur 1 m² d'emprise au sol, vous permet de cultiver en fait, sur votre balcon 120 salades. Donc oui, on commence à réfléchir sur ces solutions. Et en plus, la semaine dernière, on a eu le soutien en fait, des espaces verts de la mairie de Bordeaux pour nous aider en fait, à créer des partenariats avec des solutions innovantes d'irrigation pour justement pousser ces solutions et avancer en fait, encore un cran plus loin.
Bon, bah on a répondu à une petite dernière.
C'est peut-être une question un tout petit peu provocante, mais en fait, ça résout le problème de communiquer autour de l'agriculture, mais ça ne résout pas le problème de la disparition des terres arables. Et est-ce qu'on n'arrive pas à un moment donné où on va créer des espaces en ville qu'on peut cultiver ? Mais quelles terres on va leur apporter pour pouvoir être viable à long terme, en fait ?
Je pense que tu fais référence en fait, à la pollution des sols ?
La pollution des sols, la désertification, le fait que les sols sont lessivés.
Alors, pour l'instant, en fait, on a une bonne nouvelle. En travaillant en fait, avec l'association Au ras du sol, qui eux-mêmes travaillent en fait, avec le couple des Bourguignons, on s'est aperçu en fait que le glyphosate, je pense que vous connaissez tous ici, qui est en fait la molécule du Roundup, on était capable en fait de dissoudre cette molécule sur une période de 9 mois avec des techniques qui sont propres à l'association au ras du sol. Et c'est la chance en fait d'être un tissu riche de différentes associations. Le fait de travailler en fait en partenariat avec ces gens, on est capable aujourd'hui d'apporter des solutions, par exemple, à des pollutions urbaines. Maintenant, pour réenrichir les sols, toujours pareil, on a en fait des résultats stupéfiants de cultures, effectivement, qui ne sont pas simplement des cultures sur but. Et donc, oui, on est en train d'avancer sur ces problématiques au jour le jour, par rapport en fait aux propositions qu'on a d'espace. Et on tente effectivement de s'adapter sur tous les cadeaux qu'on nous fait. Si je peux répondre simplement.
Et tu parlais de communication, et je pense que, effectivement, moi je viens du milieu de la com, donc je sais à quel point elle peut être néfaste et négative, mais elle peut aussi avoir un impact positif, parce que aussi il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ces problématiques. Et le fait de communiquer, de s'associer et de communiquer toujours plus fort, c'est aussi faire connaître, faire remonter les problèmes. Et il faut savoir que les décisions politiques aujourd'hui, elles sont insufflées par la com et les médias. Donc c'est hyper important aussi, ça ne résout pas l'intégralité du problème, mais de communiquer, de faire connaître ces problématiques aux politiques, parce que c'est aussi faire connaître aux citoyens. Et qui est-ce qui vote pour les politiques? C'est les citoyens. Donc c'est hyper important d'avoir aussi ce rôle de pédagogie, d'explication, à la fois dans les médias, dans la sphère publique, sur la voie publique, puisque là, nous, on est sur l'espace public jusqu'au 3 novembre. C'est aussi important. Ça ne résout pas l'intégralité du problème, mais en tout cas, ça commence à ouvrir des voies. Et effectivement, on a des maires, des personnes qui travaillent dans des communes qui viennent nous voir en nous disant « Ah, mais là, on a 1,5 hectare, là, et on ne trouve pas de maraîchers. » Donc aussi, le rôle de l'asso, ça peut aussi être, et devenir, parce qu'on ne l'avait pas anticipé, devenir un rôle de mise en relation.
Je rebondis là-dessus. Je vois que vous êtes captif et je profite pour faire la promotion en fait, d'un festival qui s'appelle le Biotope Festival, qui a lieu à Saint-Émilion, le 24 et le 26 octobre, c'est bien ça ? Sur le thème de l'eau, organisé effectivement par une femme extraordinaire qui s'appelle Madina Kéré. Et je vous invite en fait à chercher sur les réseaux sociaux cette belle initiative qui permet justement d'identifier ces problématiques de l'eau et qui pour nous est vitale.
Merci beaucoup à tous de votre attention, de vos questions. On vous invite à venir nous voir à la fin. Nous, on doit rendre l'espace, mais vous pouvez quand même venir nous voir ou venir nous rencontrer a posteriori sur la ferme urbaine devant la maison éco-citoyenne. Je vous invite à nous remettre les petits post-it si vous avez une idée, une première idée d'action à mettre en place dès aujourd'hui pour plus de fermes urbaines. Et à très bientôt. Et merci aux intervenants, pardon, et à Agora de nous avoir accueillis.